Chers auditeurs, comme la constitution civile du clergé l'avait prévu pour la nouvelle organisation territoriale de l'Église de France, le diocèse de Bayonne, celui de l'Escar et celui d'Oloron, disparaissait pour laisser la place au diocèse des Basses-Pyrénées, qui épousait les contours du département du même nom. Et comme les trois évêques titulaires avaient refusé le serment, aucun d'eux ne pouvait prendre la tête du nouveau diocèse. Il fallut par conséquent appliquer les dispositions de la Constitution et procéder à l'élection du nouvel évêque. Il ne s'agissait pas de suffrage universel. Le corps électoral comprenait des laïcs, pas nécessairement tous catholiques, pourvu qu'ils fussent soumis à un impôt correspondant au moins à 3 jours de travail d'un ouvrier. À l'issue de la messe paroissiale à laquelle tous les électeurs étaient tenus d'assister, le corps électoral se réunit le 1er mars 1791 dans l'église des Cordeliers à Pau. Il comprenait peu d'électeurs du Pays basque. Un premier tour de scrutin donna 56 suffrages à Jean-Baptiste Sanadon, un bénédictin, principal du collège de Pau, 47 à l'abbé Guireil, curé de Gélos, et M. Lamarque, curé de Pau, et M. Pébordes en optèrent chacun 30. Le scrutin de ballotage vit la victoire de Sanadon par 174 voix contre 96 au curé de Gélos. Le nouvel évêque alla à Paris recevoir la consécration épiscopale des mains d'un évêque sacré par Talleyrand. À son retour, il fut reçu en grande pompe à Oloron, siège du nouvel évêché, le samedi 21 mai. Sitôt installé, l'évêque constitutionnel prit soin d'abroger toutes les approbations ou délégations accordées par d'autres que lui. À cette fin, il publia un mandement qui fut imprimé en basque et en français, et envoyé dans toutes les paroisses. Beaucoup de curés du Pays basque refusèrent de le communiquer à leurs paroissiens. Par contre, ils reçurent et diffusèrent l'ordonnance de Monseigneur de Villevielle, qui était une réponse au mandement de Sanadon, où il déclarait que les pouvoirs conférés par ce dernier n'avaient aucune valeur et où il faisait à ceux qui les avaient reçus une défense formelle de les exercer. Une sorte de petit catéchisme venait compléter et préciser l'ordonnance et éclairer les fidèles dans leur comportement à l'égard de celui qu'il appelait l'intrus. Tous ces événements, on le devine, divisaient profondément les fidèles. Au Pays basque, on restait pour le moins sceptiques. Le directoire du district d'Ustaritz soutenait, bien sûr, de toute son autorité, la nouvelle Église. Il pensa que la population serait heureuse d'accueillir le nouvel évêque et que sa vue allait apaiser et rassurer les esprits. Il va donc inviter Sanadon sur la côte basque. L'occasion en fut la fête patronale de Saint-Jean-de-Luz, le 24 juin, qui attirait habituellement beaucoup de monde. Mais Sanadon voulut visiter d'abord Bayonne. Il y fut reçu le 21 juin 1791 par les notables bayonnais et les membres du directoire du district d'Ustaritz, au milieu d'une multitude immense, s'il faut en croire le procès-verbal établi par la municipalité. Le dimanche 23 juin, on célébrait la fête Dieu. Sanadon officia pontificalement à la cathédrale et présida la procession du Saint-Sacrement qui emprunta l'itinéraire traditionnel à travers les rues du Grand et du Petit Bayonne. La municipalité avait demandé aux Bayonnais de tapisser les façades de leurs maisons et de faire joncher le devant de leurs portes suivant l'usage. À peine était-il précisé de 50 livres d'amende, ce qui, évidemment, facilita l'expression publique de l'adhésion des Bayonnais à la nouvelle Église. Les réticences et même l'opposition vint entre autres des Capucins, qui refusèrent de s'associer à cette manifestation, et des Visitandines, qui n'acceptèrent pas de dresser le reposoir qu'elles avaient coutume d'organiser. Dans la soirée, Sanadon rejoignait Saint-Jean de Luz. Quelle ne fut pas la déconvenue de tous, et d'abord celle de l'évêque, quand on se rendit compte que l'église était déserte et qu'aucun des 25 prêtres de la paroisse ni des 10 de Cibourg n'était présent. Il fallut en recruter 2 ou 3 pour assister l'évêque. Et celui-ci fit preuve d'autorité en nommant Fontrouge, curé de Saint-Jean-de-Luz, et d'Iturbide, curé de Cibourg. L'attachement du curé de Saint-Pé-sur-Nivelle à la Constitution méditait bien une visite de la part du nouvel évêque. Elle eut lieu pour la Saint-Pierre, la fête patronale de la paroisse. Le curé, Marie Thurie, offrit à l'auguste visiteur un dîner que la municipalité paya pour moitié. La désignation des 2 curés de Saint-Jean-de-Luz et de Cibourg n'était que provisoire, car la constituante avait prévu que de telles nominations devaient se faire par élection. De même pour la mise en place des nouvelles paroisses. Elle avait pris soin de décréter pour chaque diocèse la répartition des cures, avec des succursales attribuées à chacune, laissant aux assemblées administratives le soin de régler les derniers détails sur le terrain avec les évêques. Dans la partie des Basses-Pyrénées correspondant à la Basse-Navarre, il était prévu 15 paroisses avec des curés comme titulaires et 18 succursales avec un simple desservant. Au Labour, 20 paroisses avec curés et 18 succursales. L'Assemblée électorale se réunit au district le 28 octobre 1791 afin de procéder au choix des curés. Leur élection devait se faire, comme prévu, à l'issue de la messe paroissiale. On eut du mal à trouver un célébrant, car aucun des prêtres d'Ustaritz ne voulait la présider. Comme il y avait également pénurie de candidats, il fallut faire appel à des ecclésiastiques venus d'ailleurs ou à d'anciens religieux ayant renoncé à la vie conventuelle et même confier parfois 3 paroisses au même curé ou alors, ce qui se fit également, avoir recours à des prêtres non assermentés. Les curés élus n'eurent guère à se féliciter de l'accueil qui leur fut réservé dans leur nouvelle paroisse. À Mouquère, on peint en effigie le nouveau curé. À Itsassou, on dresse sous le porche de l'église une potence, avec menace d'y pendre l'intrus s'il ose franchir le seuil sacré. Le curé de Saint-Jean-de-Luz a consigné dans un rapport adressé à la municipalité les avanies qu'il eut à subir lors d'un enterrement à Cibourg. Il ne trouva pas un surplis à la sacristie. Et personne ne voulait reprendre avec lui le De Profundis. Nous avons été obligés de chanter tout seul le psaume Miserere, s'indigne monsieur le curé. Point de convoi, une infinité de femmes étaient aux portes et surtout à celles du ci-devant curé où elles faisaient un bruit infernal pendant notre marche. La cérémonie à l'intérieur de l'église connut le même succès et suivit le même scénario. Comme le fait le Basque quand il veut dénoncer une situation qui le choque, on chansonna les prêtres jureurs. L'auteur de « Apes Iudatuak », les prêtres jureurs, s'adresse à Diarassari, jadis professeur de théologie, « Votre messe est sacrilège », et il lui conseille de suivre l'exemple de Zorech, qui lui s'est rétracté. La chanson « Nationeko Beshta Champeden », la fête de la nation à Saint-Pé, est une satire contre le curé Marie Thurie qui a dansé avec des vieilles à la fête de la nation. Le plus prolixe dans ce genre littéraire a été Salvat Monod, vicaire de Bardos. il s'en prend à son ancien collègue, Mentaberry, devenu curé de cette paroisse, dans une pièce intitulée « Mentaberriren possessionetan sartzearen occasionetan ». Il est encore plus incisif dans « Districerat », au district, où il raconte le pèlerinage de quelques donzelles au district, sans doute pour y dénoncer des prêtres, et dans « Bardossen Club », un club à Bardos, où il caricature les clubistes du village. Après avoir parlé des prêtres jureurs et de l'Église constitutionnelle, nous dirons la prochaine fois ce que devenaient les prêtres réfractaires, ceux qui avaient refusé le serment.